Et à 7h23, on retrouve l'œil de Pierre Marlès sur l'actualité internationale avec évidemment ce rendez-vous aujourd'hui, le 75e anniversaire de la libération d'Auschwitz. On vous y retrouve à Auschwitz en direct. Pierre Marlès, bonjour Pierre.
Bonjour François.
Auschwitz, hein, on le sait, synonyme de l'horreur absolue. 1 100 000 personnes exterminées là-bas, dont une toute grande majorité de juifs. Et avec vous ce matin, Pierre, on va se poser la question, aurait-on pu éviter cela ?
Eh bien oui, 75 ans après, poser une telle question paraît légitime. Avec le recul de l'histoire, on est en droit de se demander si tout a été fait pour mettre fin plus tôt à une telle abomination. Alors pour bien comprendre de quoi l'on parle, il faut savoir qu'au départ, Auschwitz est un camp de concentration comme tant d'autres. Un camp étendu ensuite pour accueillir des prisonniers soviétiques et c'est d'ailleurs sur eux qu'on va tester le système de chambre à gaz avec l'utilisation du Zyklon B, un puissant insecticide. À partir du printemps 42, cette terrible technique devient l'instrument de la solution finale. L'élimination totale des Juifs d'Europe, la frénésie meurtrière culminera en été 44, au moment où l'Europe commence à être libérée. 5000 personnes sont éliminées chaque jour à Auschwitz.
En dehors des SS et des responsables nazis, Pierre, savait-on ce qui se passait là-bas à Auschwitz ?
Alors la question était longuement débattue. En Allemagne, il est difficile de prétendre que personne ne savait rien de la Shoah. Ainsi, par exemple, l'armée allemande a rejeté la faute sur les seuls SS en oubliant que des milliers de soldats allemands ont participé à la Shoah par balle, c'est-à-dire l'élimination physique des Juifs, des Tziganes et des communistes en Russie, fusillés au bord de fosses communes lors de l'invasion de l'Union soviétique. Mais les Alliés, eux, savaient-ils ce qui se passait à Auschwitz ? Les Russes, les Anglais, les Américains ? Au départ, sans doute pas. Ensuite, les indices se sont multipliés, les témoignages aussi. Mais c'était tellement abominable qu'on ne voulait pas le croire. On est au-delà du concevable. Fin juillet 44, les Russes vont libérer Majdanek dans l'est de la Pologne. C'est le premier camp d'extermination qu'ils découvrent avec les chambres à gaz. C'est la première fois qu'on en parle dans la presse, soviétique comme occidentale. Mais le grand public n'en prend pas toute la mesure. Car dans le cortège d'horreur qu'est la guerre, on ne prend pas réellement conscience de ce qui sera qualifié au procès de Nuremberg de génocide et de crime contre l'humanité.
Mais est-ce que les dirigeants, eux, savaient ? Est-ce que Churchill et Roosevelt étaient au courant ? Ils avaient quand même d'autres moyens que le grand public de savoir ce qui se passait dans ces camps-là.
Eh bien, François, à partir de l'été 44, on peut affirmer qu'il savait. Le 7 avril 44, deux détenus, Rudolf Weber et Alfred Wetzler, parviennent à s'échapper d'Auschwitz. C'est exceptionnel, un seul 5 juifs vont y parvenir. Leur témoignage est consigné dans ce qu'on appellera les protocoles d'Auschwitz. Un rapport précis, détaillé du processus d'extermination qui vient confirmer ce que d'autres sources disaient déjà. Via la Suisse, ces témoignages parviennent le 6 juillet 44 à Washington, au bureau des réfugiés de guerre, avec une requête. Il faut bombarder Auschwitz pour arrêter ce massacre organisé. Mis au courant, Churchill va d'ailleurs se rallier à l'idée.
Mais alors pourquoi ne l'a-t-on pas fait, Pierre ? Qu'est-ce qui est venu l'empêcher ?
Les armées de l'air britanniques et américaines ont étudié la faisabilité d'une telle opération. Et ils ont conclu qu'elle était très hasardeuse, peu efficace. Bombarder les voies de chemin de fer n'aurait pas empêché les Allemands de les reconstruire très vite. Quant à détruire le camp lui-même, c'était bombarder des prisonniers innocents qui allaient payer le prix fort. Cela dit, puisqu'on sait que 90% des déportés étaient gazés le jour de leur arrivée, puisque l'espérance de vie de ceux qui restaient ne dépassait généralement pas quelques mois, l'argument était contestable. Mais pour beaucoup d'officiers alliés, bombarder Auschwitz n'était pas la priorité. Gagner la guerre le plus vite possible, disait-il, voilà le plus sûr moyen de mettre fin aux horreurs du nazisme. Mais il y avait aussi un autre argument qui a peut-être été déterminant. La propagande allemande n'allait pas manquer d'utiliser un bombardement d'Auschwitz par les alliés en disant « Voyez les juifs bien davantage que nous puisque vous venez les écraser sous les bombes, délibérément. » Pour les dirigeants américains et britanniques qui disaient défendre une juste cause, un combat contre le mal absolu, voilà qui les a fait hésiter. Or, seule une farouche volonté d'agir aurait pu convaincre une forme d'inertie du commandement militaire pour qui Auschwitz était trop loin de leurs préoccupations et trop loin géographiquement parlant, parce que bien plus proche du front russe.
Ouais. Cela dit, Pierre, un bombardement d'Auschwitz aurait-il mis fin à la Shoah ?
Non. Auschwitz était le plus grand camp d'extermination nazi, mais il n'était pas le seul. On en dénombrait 6. Mais en plus de ces camps d'extermination, l'ensemble de l'univers concentrationnaire allemand était impressionnant. 1 millier de ghettos, 1 millier de camps de concentration. Le martyr des Juifs ne se résume pas aux chambres à gaz. D'ailleurs, au fur et à mesure de l'avancée de l'armée soviétique en Pologne, on évacuera les camps et les prisonniers connurent alors ce qu'on appelait les marches de la mort. Quand les soviétiques libèrent Auschwitz, ils ne découvrent que 7000 survivants. 50 000 autres marchaient dans des conditions abominables vers Buchenwald ou Dachau. Auschwitz, c'est le symbole de la Shoah, mais il n'en est ni le début ni la fin. Les dirigeants nazis mettront jusqu'au bout une incroyable énergie à mener à bien le génocide, comme si, au fur et à mesure qu'ils perdaient la guerre, ils voulaient gagner l'Holocauste.
Voilà, rappel historique utile avec vous, Pierre Marlet, en direct d'Auschwitz. Vous couvrez pour nous, hein, pour la télé et la radio à la RTBF, les commémorations du 75e anniversaire de la libération d'Auschwitz. On en parle de ces commémorations, comment résonnent-elles aujourd'hui, comment peuvent-elles lutter contre l'antisémitisme, avec l'invité de la matinale à 7h45, c'est l'ex-sénatrice PS Simone Suskind. Belle matinée à l'écoute de la première.
7h-9h, Matin Première.